Bien. Alors, on va pouvoir démarrer la table ronde de cet après-midi. Donc, on a eu des exposés plutôt un peu théoriques et sur un fond disciplinaire ce matin, plutôt sociologie et économie, pour comprendre la question des mobilités, de l'habité en transition dans des zones transfrontalières. L'objectif cet après-midi, c'était d'éclairer par du terrain, par des acteurs qui vivent le transfrontalier, qui vivent dans l'arc jurassien, ces dynamiques complexes qui consistent à habiter ici, à consommer là-bas, à travailler encore ailleurs. Tout cela, en fait, construisant des flux et des dynamiques qui sont relativement complexes. La question de départ que nous avons posée, c'était que nous partions d'une économie plutôt productive qui était traditionnellement, depuis déjà des dizaines d'années, localisée en Suisse et captait des travailleurs frontaliers français, 32 000 sur la totalité de l'arc jurassien franco-suisse. Et cette économie productive rapporte très peu finalement au territoire qui l'accueille. C'est parti d'un constat finalement, par exemple, de la faillite de la ville de Chaux-de-Fonds il y a quelques années, 2 ans, je crois, en arrière, faillite, tout est relatif, mais en tout cas, des finances qui étaient dans le rouge, alors que l'horlogerie est florissante. Donc cette question interrogeait et nous nous sommes interrogés sur la montée en puissance possible d'un modèle qui existe, mais qui n'est pas forcément considéré à sa juste valeur, l'économie présentielle et résidentielle, des emplois locaux pour servir localement les habitants, les touristes, en tout cas ceux qui résident ou vivent sur place, remettre en évidence ces emplois plutôt que de se focaliser uniquement sur ceux qui produisent du PIB, dont on sait que cet indicateur ne détermine pas non plus forcément un bien-être, un bien-vivre. Partant de l'économie présentielle résidentielle à soutenir, nous nous sommes posé la question de celle-ci dans une perspective transfrontalière. Peut-on développer une économie présentielle résidentielle en France et ensuite conjointement? Et dans le cadre de cette journée précisément, nous interrogeons les mobilités sous-jacentes. Puisqu'on se rend compte que habiter quelque part ne signifie pas consommer au même endroit, on se rend compte que finalement, ces emplois présentiels ou résidentiels dans les services, dans le commerce globalement, l'offre touristique va générer des déplacements. Et nous nous posons la question de comment est-ce que nous allons effectuer cette mobilité en transfrontalier en dehors de la grande mobilité internationale. Nous ne parlerons donc pas de TGV, de connexion Paris-Neuchâtel, Paris-Lausanne, etc. Mais qu'est-ce qui peut supporter cette économie, porter cette économie résidentielle présentielle lorsqu'on sait que nous sommes mobiles pour aller chercher des aménités là où elles se trouvent et pas forcément là où nous vivons. Alors cet après-midi, on a donc construit une table ronde sur la base de personnes qui font la coopération transfrontalière ou qui sinon l'observent et sont capables d'en parler et d'essayer de comprendre comment tout cela va se mettre en ordre. Dans l'ordre, justement, je commencerai pendant 10 petites minutes par vous poser le cadre de l'arc jurassien, que vous voyez des cartes, que vous compreniez ce qui se joue spatialement sur une frontière de 240 km. Puis ensuite, nous irons plus précisément nous focaliser sur un des points de connexion importants au cœur de l'arc jurassien, entre Val-de-Morteau, Le Locle et Chaux-de-Fonds, le cœur du système productif horloger dont je viens de parler, qui représente, on l'a vu ce matin, pas plus de 30% finalement des revenus, tandis que 70%, 70% sont plutôt assis sur l'économie présentielle résidentielle. Donc on zoomera sur cet axe du Val-de-Morteau jusqu'à Chaux-de-Fonds, en filigrane l'horlogerie, mais nos interrogations porteront bien sur cette économie présentielle résidentielle en soutien autour de cette économie productive classique. Alors, dans la table ronde, dans l'ordre, je débute. Ensuite, je passerai la parole à Bernard Veufray, qui est membre du Forum transfrontalier, qui est une structure de coopération, enfin, qui interroge la coopération transfrontalière. C'est une structure issue de la société civile. Bernard Veufray est géographe au départ. Il est directeur du service d'aménagement du territoire de la ville de Nyon. C'est en Suisse. Ça n'est pas transfrontalier. Mais je sais qu'à ce titre, il a des compétences intéressantes sur la question de l'économie présentielle. Et il posera le cadre des interrogations autour de la mobilité cet après-midi, dans un premier temps, pour mettre la question de l'économie présentielle résidentielle en lien avec la question des mobilités. Isabelle Maquin, ensuite, qui est directrice adjointe de l'agence d'urbanisme, de l'ODAB, au service du développement de l'agglomération byzantine. Isabelle nous présentera justement des questionnements autour des solutions de mobilité. Et comment est-ce que l'on programme, comment est-ce qu'on planifie la mobilité d'une manière générale et montrer qu'en transfrontalier, eh bien, nous sommes face à quelque chose qui fonctionne mal parce que les outils ne sont pas coordonnés, parce qu'il se pose tout un tas de problèmes qu'elle va nous présenter et également des solutions possibles de mobilité qui se dessinent sur d'autres zones de coopération et qu'elle nous présentera. Ensuite, on passera la parole à Pierre Veufray, qui, lui, est un acteur politique et qui préside l'agglomération urbaine du Doubs, qui est une structure de coopération transfrontalière. Ça s'appelle explicitement un GLCT, Groupement local de coopération transfrontalier, qui lie les communes du Val-de-Morteau avec trois communes suisses en vis-à-vis. Et lui, il vit la mobilité au quotidien, avec des administrés qui se déplacent et des offres finalement de transport qui demeurent assez classiques, quasi autour du tout voiture. Je passerai la parole ensuite à Patrick Réal, qui lui représente la société des civils sous l'angle des usagers des transports et qui est spécialisé sur les questions du transport transfrontalier. Je vais inviter, je t'invite à prendre la place. Nous aurons un éclairage sur la question de la société civile et des transports en commun assez déficients dans l'arc jurassien. Et puis Thierry Brunet, pour terminer, qui représente, on va dire, le SGAR Bourgogne-Franche-Comté, mais la partie coopération transfrontalière à l'intérieur du service général aux affaires régionales. Thierry Brunet, donc, qui représente l'État pour la coopération transfrontalière dans l'arc jurassien, c'est-à-dire la CTJ, et qui est porteur d'expériences de covoiturage, par exemple, mais pas seulement, donc des expériences vécues de mobilité qu'on essaie de mettre en place dans l'arc jurassien en dehors de la mobilité tout automobile classique. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur des questions de mobilité, soit comment est-ce qu'on la fabrique, soit comment est-ce qu'on la vit. On prend la forme d'une table ronde au sens où chacun va intervenir autour d'un quart d'heure, 20 minutes, non pas pour présenter une structure, mais pour présenter des éléments du débat qui nous anime cet après-midi autour économie présentielle, résidentielle et mobilité transfrontalière. Et donc, vous pourrez poser des questions, mais plutôt à l'issue de l'ensemble des présentations. Maintenant, s'il y avait des questions très urgentes, pressantes de compréhension, n'hésitez pas à lever la main, à interrompre les uns et les autres. Nous sommes aussi dans un cadre convivial et ça ne pose aucun problème d'interrompre un interlocuteur et de le questionner sur un élément qui vous paraîtrait difficile à comprendre, voire abscon. Je me redonne la parole, comme je vous l'ai dit en introduction, pour vous présenter l'organisation. 10 petites minutes en carte pour voir où est-ce que l'on parle, de quoi est-ce que l'on parle, pardon, et ceci d'un point de vue spatial. Ça, c'est l'ensemble de l'ère de coopération transfrontalière caractérisée par la CTJ, donc à laquelle contribue Thierry Brunet. Vous voyez ces trois départements français, mais derrière l'acteur région Bourgogne-Franche-Comté, d'un point de vue institutionnel, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, l'État français, qui collabore avec quatre cantons suisses en vis-à-vis. Mais spatialement, ça n'est pas toute la région Bourgogne-Franche-Comté qui est représentée dans la coopération, spatialement. Seulement trois départements français et quatre cantons suisses en vis-à-vis, Jura, Berne, Vaud et Neuchâtel. Ça, c'est juste une première carte pour vous montrer que nous sommes dans un espace géographique, mais un territoire avec des acteurs sous-jacents et qui est de grande taille spatialement, mais vous voyez d'un point de vue des densités de population très dissymétriques. Voilà, pour aller vite, côté français, très peu de villes importantes dans l'arc jurassien. Vous voyez les densités de population, elles sont très faibles. Globalement, elles sont inférieures à 50 habitants au kilomètre carré sur la grande majeure partie des plateaux. Puis vous avez des villes qui vont ponctuer ces plateaux et la chaîne montagneuse. Et tout cela, eh bien, on a fini par l'appeler une sorte d'archipel de villes. Elles sont de très petite taille, plutôt pour les plus importantes, entre 6 000 habitants, 6 à 7 000 habitants, suivant que l'on considère l'agglomération ou la ville-centre. Et puis, on va culminer à 18 000 habitants pour Pontarlier. Vous voyez que côté français, ça reste quelque chose de relativement ténu et on ne place pas dans l'arc jurassien directement la grosse agglomération Nord-Franche-Comté. Vous voyez rouge au-dessus, Belfort, Montbéliard, Héricourt, 300 000 habitants, mais on n'est pas dans la perspective véritablement d'une ville de l'arc jurassien classique. On n'est pas au-dessus de 600 mètres d'altitude. Ce dont je parle, ce sont les points rouges proches de la frontière côté français, jusqu'à Saint-Claude au sud. Par contre, côté suisse, vous voyez une montagne qui est également peu peuplée, mais très courte. On retombe très, très rapidement vers la plaine suisse. Et la plaine suisse, par contre, est très fortement peuplée. On est autour de 250 à 300 habitants au kilomètre carré. Ça n'a plus rien à voir avec les densités très faibles de la France. Donc, globalement, si l'on considère strictement le massif, côté français au-dessus de 600 mètres d'altitude, côté suisse, nous sommes sur un territoire archipel, un territoire de petites villes. Côté suisse, la plus importante sera La Chaux-de-Fonds, un peu plus de 30 000 habitants, et le Locq, le conjoint, ça forme un ensemble d'environ, alors vous les voyez, alors du coup je vais peut-être prendre cet engin en le faisant fonctionner correctement. Non, c'est pas ça, c'est de ce côté. Hop, excusez-moi. Mais j'arrive toujours pas à faire fonctionner. Voilà, Chaux-de-Fonds, le Locq, voilà un ensemble qu'on va résumer à 50 000 habitants en vis-à-vis de Morteau, Val-de-Morteau, qui va compter à peu près 10 000 habitants, je vais au bas mot, 20 000 d'accord, 20 000 sur la totalité de l'intercommunalité. La ville de Morteau en vis-à-vis habitants, voilà. C'est très très petit côté français. Donc ça, cet ensemble par ici, tout le long de la frontière, de part et d'autre, mis à part cette excroissance ici, c'est vraiment de petite taille. C'est notre cadre dans lequel on va exprimer nos discussions. Vous voyez ici la densité et par-dessus le nombre brut d'habitants. Donc, vous voyez les parties basses très peuplées. Et puis, j'ai finalement noté ici une ligne qui nous présente la ligne basse du massif. Et ce dont on parle, c'est ici, au cœur, et c'est vraiment des villes de très petite taille. Si on regarde maintenant la question des transports, si je ne vous disais pas où se situe la Suisse, vous la trouveriez facilement. Quand vous savez comment la Suisse est équipée en transport en commun, vous avez ici une carte qui montre les infrastructures ferroviaires, donc le transport en commun entre France et Suisse. Et vous avez ici l'ensemble de ces infrastructures qui butent sur la frontière, où vous voyez sur la partie droite la Suisse avec un ensemble très dense de voies ferrées de transport en commun. Et systématiquement, lorsque vous passez la frontière, vous tombez sur des voies qui sont faiblement cadencées avec un faible nombre de trains qui va circuler, et donc un système très dissymétrique où on se doute que entre les petites villes très peuplées, faiblement peuplées, et l'offre de transport, finalement, les choix modaux, les choix de mobilité vont beaucoup reposer sur l'automobile. On s'en doute en voyant cette carte, et si l'on regarde la fréquence cette fois des trains, eh bien, tout est dit. Où vous passez de fréquences très importantes, jusqu'à 40 trains encore entre, vous le voyez ici, Chaux-de-Fonds et le Locle. Alors, on n'a jamais. Alors, j'ai soit la main, je vais le faire avec la main. Entre Chaux-de-Fonds et le Locle, ici, vous avez 40 trains par jour. Et si vous voulez continuer ici jusqu'à Morteau, vous tombez sur 3 à 4 trains seulement. Vous voyez que la frontière, c'est un diviseur de flux qui est absolument phénoménal. Nous avons ici une voie qui va prochainement réouvrir. Donc, nous aurons à nouveau un segment ici entre Belfort et la frontière. Mais globalement, nous sommes très, très peu dotés côté français. Donc, des transports plutôt en panne en termes... transports en commun plutôt en panne en termes de mobilité. Et puis, parmi les dernières cartes à vous montrer, derrière, malgré tout, eh bien, de fortes mobilités potentielles. Si l'on considère les travailleurs frontaliers, dont on a parlé déjà ce matin, c'est 32 000 sur la totalité de cet arc jurassien. 32 000 qui vont, de fait, venir d'une myriade de petites villes et villages côté français. Vous le voyez, la bande qui va diffuser des frontaliers, ou si nous avons la proportion des frontaliers dans la population active totale, donc lorsque c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de frontaliers, vous voyez qu'ils s'éloignent peu de la frontière, même s'ils ont tendance à s'éloigner de plus en plus, du fait des coûts des loyers des fonciers, je vais vite, vous voyez que malgré tout, dans une bande de 30 km, on va trouver ces 32 000 frontaliers, donc qui sont globalement tous passeurs de frontières tous les jours dans des points de passage qui sont relativement peu nombreux. Donc on a finalement une relative concentration potentielle des mobilités puisque par ailleurs de l'autre côté ils vont s'embaucher en Suisse dans une bande à nouveau de 30 km globalement. Donc on est sur un ensemble d'un point de vue spatial qui est resserré autour de la frontière. Donc, a priori, une capacité à capter les flux qui devrait être assez bonne, ce qui n'est pas forcément le cas. Pour résumer juste sur les mobilités, vous voyez, et je n'ai pas de carte pour cela, il faut ajouter des mobilités de consommation, c'est-à-dire des consommateurs suisses qui vont venir régulièrement en France vers les hypermarchés. Entre parenthèses, la ville de Pontarlier, 18 000 habitants, est dotée de surface d'hypermarchés en mètres carrés, à hauteur d'une ville de 120 000 habitants. Donc, disons, 18 000, 20 000 habitants, pour résumer, pour faire court, et 120 000 habitants en termes d'équipement, donc comme si la ville était 6 fois plus grosse, du fait donc de ces consommateurs suisses qui viennent régulièrement en France, consommateurs frontaliers, tourisme, évidemment, qui peut être plus ou moins itinérant. En tout cas, les touristes suisses viennent en France, les touristes français potentiellement vont en Suisse, s'ajoutent encore ces mobilités un peu particulières et une organisation en 4 R, finalement, de coopération. Donc, je vous ai dit que nous allions zoomer plutôt sur l'aire violette, mais sachez que sur cette frontière de 240 km, il y a par ailleurs 3 autres aires de coopération entre Nord-Franche-Comté et Val-de-la-Joie, on va dire canton de Jura, tout au nord, ce que l'on va étudier au centre, Pontarlier vers Lausanne-Yverdon en vert, et puis le sud du massif entre Moret-Saint-Claude, Saint-Sergue et la retombée vers le lac de Genève, vers le lac Léman, vers Nyon. Juste pour terminer, vous montrer qu'en fait, finalement, ces mobilités, elles s'expriment essentiellement localement, et que, juste sur la statistique des travailleurs frontaliers, autour de 80% d'entre eux, en fait, vont travailler dans la partie de l'arc jurassien en vis-à-vis. Donc vous avez quelque chose qui est absolument recentré sur la frontière. 80% des travailleurs frontaliers qui résident dans la partie française du territoire vont travailler dans la partie suisse en vis-à-vis du territoire. 80% des mobilités, elles sont donc de relative proximité autour de quelques points de franchissement. Et ce qui va se disséminer en dehors de cette relation de proximité, c'est très très faible. Et finalement, si vous regardez ceux qui vont vraiment travailler hors de l'arc jurassien, les frontaliers qui viennent français, qui travaillent hors de l'arc jurassien suisse, vous le voyez, ils représentent 1% seulement du volume. Donc en fait, c'est des relations de très grande proximité. J'éclaire cela pour vous montrer comment est-ce qu'on va évidemment faire pour capter cela ou pas, puisque nous sommes aussi sur une table ronde un peu critique qui peut poser des questions quant à la manière d'accompagner cette mobilité. J'ai terminé avec ce panorama rapide. Je passe la parole à Bernard Veufray, qui va nous donner sa lecture de cette combinaison économie présentielle-résidentielle au prisme des mobilités et des mobilités locales.